Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la toute la semaine, nous recevons ici au studio Dona Moussema, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant de Bukavu Sud-Kivu. Bonjour Dona Moussema.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
En ligne, Madame Nathalie Kambala-Loussé, elle est membre du cadre des concertations de la société civile du Kassai Central. Elle est directrice pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral, FMDI en sigle. Bonjour Madame Nathalie Kambala-Loussé.
Bonjour Guy Maté, bonjour aux co-débatteurs ainsi que tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Rigaud, il est journaliste et directeur du site Africa Arabia spécialisé sur la RDC. Bonjour Christophe Rigaud.
Bonjour Guy et bonjour à tous.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité.
Auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Dona Moussema, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant des Bukavu Sud-Kivu. Madame Nathalie Kambala-Loussé, elle est membre du cadre de concertation de la société civile du Kassai Central et elle est directrice pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral, FMDI en sigle, et en ligne depuis Paris, capitale de la France. Christophe Rigaud, il est journaliste et directeur du site Africa Arabia, spécialisé sur la RDC. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir attente du 9e round de négociations en Suisse entre le gouvernement congolais et la FCM23, alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain. Insécurité à Kinshasa, les causes et les pistes de solutions, et enfin, situation humanitaire en RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du rôle stratégique de la RDC en ce qui concerne l'eau. En effet, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a souligné le rôle stratégique de son pays dans les équilibres futurs liés à l'eau, à l'énergie et au développement mondial. Elle s'exprimait ainsi le mercredi 15 avril à New York, aux États-Unis, lors de la conférence Water Forward, organisée en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Dans son intervention, la chef du gouvernement congolais a insisté sur la portée globale de la question de l'eau qu'elle considère comme un levier essentiel du développement économique et social. Parler de l'eau aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler de développement, c'est parler d'avenir du monde que nous construisons, a-t-elle déclaré. Judith Suminwa a rappelé que la RDC occupe une position centrale dans la gestion future des ressources hydriques avec plus de 50% des réserves de l'eau douce de l'Afrique. Un atout majeur qui, selon elle, engage la responsabilité du pays dans la transformation de ses potentiels en progrès concret. Elle a souligné que l'eau conditionne la santé, la sécurité, la prospérité et la croissance économique, appelant à une exploitation durable et structurée de cette ressource. Dona Moussema, quelle lecture vous faites de cet exposé de la Première ministre en ce qui concerne les rôles stratégiques de la RDC dans les équilibres futurs liés à l'eau, à l'énergie et au développement mondial?
Et tout d'abord, Guy Maté, permettez-moi de saluer les auditeurs de Radio Okapi. Ça fait un temps, je n'ai pas été en direct, ça fait des années. La dernière fois, c'était quand j'étais en déplacement et voilà, je suis de retour aujourd'hui. Les temps de saluer aussi Christophe Rigaud, les confrères qui nous suivent depuis Paris, qui est en ligne avec nous, et Nathalie Kambala. D'accord. Merci pour le travail que vous abattez. Je me permets ici de faire un feedback parce que quand j'ai été dans la diaspora, je me suis rendu compte que Radio Okapi était très suivie, très aimée et très respectée. C'est la radio qui donnait le tempo de l'actualité au niveau donc du pays. Donc bravo à toute l'équipe pour le travail que vous abattez.
Merci beaucoup, Dona Mousseba.
Bon, je crois que depuis que nous sommes jeunes, nous sommes enfants, l'école primaire, il y a toujours ce chant, cette chanson de tous les jours, le Congo, un scandale géologique et aux forêts. C'est pas sous-sol, minéré, il y a tout ça qu'on nous dit depuis longtemps. Nous avons tout dans ce pays. Nous avons l'eau, nous avons le bois, nous avons la forêt, nous avons le climat. Nous avons les animaux, de façon que le Congo serait aujourd'hui un paradis terrestre. Mais il se pose comme toujours un problème d'homme, un problème de gouvernance. Qu'est-ce que nous avons fait de cette richesse commensurable que Dieu nous a donnée? Voilà, aujourd'hui le Congo, c'est parmi les pays les plus pauvres du monde. Entendre encore une question aujourd'hui sur l'eau, toujours les forums, les déplacements, c'est la même chanson, on part, on revient, on dilapide les frais d'émission. Mais nous la population, nous le peuple, où est notre part? Donc je crois que, sans vraiment m'en prendre au déplacement de la première ministre, donc c'est du déjà vu, du déjà entendu, du déjà vécu, mais qu'est-ce que nous, nous gagnons comme population? Je crois que plutôt, la solution ne va pas venir de l'étranger. Il faudrait que le gouvernement congolais, avec tous les acteurs impliqués, puisse réfléchir au niveau interne, avec toutes les forces endogènes, pour qu'on trouve solution aux problèmes qui gangrènent la population congolaise. L'eau, nous l'avons. On dit que nous pouvons servir, je ne sais pas, 50% à toute l'humanité, mais au niveau du Congo, au niveau par exemple de Kinshasa ici, il n'y a même pas 40% qui ont accès à l'eau potable. C'est déjà un problème. Donc nous devons éviter d'être théoriques, de beaucoup toujours parler, sans proposer des solutions aux idoines aux problèmes des Congolais. Et ça fait qu'aujourd'hui, même à l'intérieur du pays, en province, il n'y a pas d'eau, c'est comme ça, même ici à Kinshasa, plus ou moins 100 km vers Kichini là-bas, il y a encore des moments, vous voyez ça, ça se réveille la nuit pour aller chercher de l'eau, des pluies avec des bidons et tout, donc je crois qu'il y a un problème sérieux de manque de volonté politique. Nous sommes fatigués de toutes ces chansons. Merci. On nous tambourine les oreilles. Il n'y a pas de solution concrète. Nous voulons les concrets. Nous voulons la proactivité au stade actuel.
Merci. Madame Nathalie Kambara-Loussé, la Première Ministre rappelle que la RDC occupe une position centrale dans la gestion future des ressources hydriques avec plus de 50% des réserves d'eau douce de l'Afrique. Mais à votre avis, est-ce que les pays lui-même profitent réellement de ces potentiels? Vous avez suivi Dona Mousseba qui les relevait ici, hein, quand on sait que la grande majorité des Congolais ont du mal à accéder à l'eau potable.
Merci beaucoup, Guy Maté. Merci aussi à notre co-débatteur qui vient de parler tout à l'heure parce que ses analyses sont vraiment rationnelles par rapport à ce que la Première ministre a donné comme rôle stratégique de la RDC autour de l'eau et ce que nous vivons, nous, la communauté congolaise, à l'accès à cette eau. Ce qui est vrai que l'eau est au cœur de l'économie mondiale aujourd'hui. Et aussi indispensable, par exemple, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la production d'énergie. Mais ce qui est un peu marrant au-delà de tous ces aspects, l'eau devient aussi un enjeu géopolitique majeur dans plusieurs régions du monde, effectivement. Mais si vous regardez, il y a la rareté de cette eau qui provoque des tensions au niveau des différents États. Mais malheureusement, en RDC chez nous ici, on constate qu'on a vraiment de l'eau, c'est fait avec le fleuve Congo, mais elle représente une véritable réserve stratégique, telle que la ministre l'a dit. Mais malheureusement, le paradoxe mondial démontre que l'eau est abandonnée à l'échelle de la planète et aussi très mal répartie et très mal gérée. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'eau, ce n'est pas seulement pour l'environnement, mais aussi c'est pour la sécurité, le développement. Mais qu'est-ce que le Congo bénéficie de tout ce que nous avons comme réserve d'eau? C'est vrai, il y a toujours ce bruit-là, que nous sommes une réserve des richesses, on a des minéraux, on a tout ça. Il y a des missions qui se font autour de l'eau. Mais moi, je vous dis que je suis dans une partie de la RDC où accéder à l'eau d'abord potable, c'est tout un problème. Et parler de 50% de réserves d'eau douce en Afrique, où la RDC occupe une place stratégique, c'est bien beau, mais je pense qu'on devait avoir l'œil vigilant pour se rassurer que nos communautés, le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo n'est pas les grandes agglomérations, soit les grandes provinces. Il y a des territoires où on ne voit même pas l'eau. L'eau que les gens boivent, l'eau que les gens utilisent pour leur ménage, c'est l'eau que quelqu'un qui prend ça peut mourir. Moi, je pense qu'on devait revoir aussi les stratégies internes que d'attendre des beaux discours en dehors du pays que nous regorgeons un grand rôle dans l'accès d'eau. Mais en réalité, nos populations n'ont pas accès facile à cette eau.
Merci.
Voilà pourquoi ma question, c'était de savoir est-ce que comment on peut considérer, par exemple, le discours ambitieux, c'est vrai, de la première ministre avec les réalités locales. Mais à l'interne, je pense que ça devait être une question de réflexion de par les ministres sectoriels avant d'aller avec des bons discours qui peuvent faire rêver les autres, qui peuvent même bénéficier de notre source d'eau ou de l'eau qui y a ici, sans que nous, les principales héritières et héritiers, nous ne savons pas bénéficier de cette eau ici. Voilà un peu ma petite réflexion autour de ça, mais c'est une très bonne chose, des bonnes images de notre pays, mais à un certain moment, on doit être rationnel dans ce qu'on dit et ce qui est faisable sur place.
Merci. Merci beaucoup, Madame Nathalie Kambala-Loussé. Christophe Rigaud, derrière ces messages de la Première ministre, n'est-ce pas un plaidoyer pour non seulement rappeler que le secteur de l'eau est non seulement important, mais aussi stratégique et qui nécessite d'importants investissements pour qu'il devienne effectivement un atout qui devrait contribuer au développement du pays au même titre que les autres secteurs, entre autres les minéraux et l'agriculture?
Bien sûr, c'est vrai que la RDC, et puis particulièrement le gouvernement congolais, hein, présente le Congo comme un pays solution en termes d'environnement. Il y a la forêt tropicale, il y a les tourbières, tout ça fait évidemment un puits de carbone important. Mais effectivement, il y a l'eau aussi, qui est une ressource qui va devenir de plus en plus précieuse et qui a aussi un fort potentiel hydroélectrique au Congo, lorsque l'on sait effectivement le taux d'électrification qui est très très faible en RDC. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, reste à savoir un petit peu ce que fait la RDC justement pour protéger ses ressources. Et là, je pense qu'il y a effectivement plusieurs faiblesses. On sait que les activités minières sont extrêmement polluantes pour les sols et donc effectivement pour les nappes phréatiques et pour l'eau. Idem pour la déforestation qui est toujours dénoncée par les associations environnementales. Donc voilà, quid de la lutte pour la protection de ces ressources naturelles, et puis surtout quels moyens financiers on peut mettre l'État pour sécuriser cet accès à l'eau. On l'a dit, moins de la moitié de la population a accès à l'eau potable. Donc c'est vraiment voilà une question de préservation de ces ressources et de moyens financiers. Alors récemment, je crois que c'est cette semaine, on a entendu parler de ces fameux eurobonds qui ont permis à la RDC d'emprunter, je crois, un petit peu plus d'un milliard et demi de dollars. Peut-être que justement que cette somme devrait être fléchée vers les infrastructures, c'est ce qui est en tous les cas promis. Notamment, ça serait intéressant, les infrastructures qui concernent l'eau, l'assainissement de l'eau et l'hydroélectrique. On sait que le projet d'Inga, qui est en souffrance depuis des dizaines d'années, pourrait permettre d'électrifier tout le pays.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Où est le sérieux de Franco Luambo Matiadi. On se retrouve juste après.
Naye, 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 nayo kisango na mosika, balobi na gai, babandi kotomboka, kanga Lazare, bako kima, nako kakande nyoyo tena linga kababe misate, tozali boise, tozali fami, simba kanda wabako tobima, otamo na obayoka, likambo esila, ae, ae, koyao, ae, ae, goyao, omokiri, toyemi, yo na mabe makala na mabe masika
ozali mabosi ndima basinga yo
ndima
ozali mabosi ndima batongo yo ozali mabosi ndima babatisa yo kombo balingi oyo ozwaka opesaka bango lelo soki ezangi yo moto mabe
mbaketumba na présence na ngai bakoloba ye bakoteke ngai mpo bakakola wapiseli
lobaloba likambo ya nsomo boye kobota mapasa mabe boye na bomwana na bango bakolakisa yo bakokola mpe bakotika ndokyo
mbaketumba na présence na ngai bakoloba ye bakoteke ngai mpo bakakola wapiseli
osala na kisasa proverbe ya masangu moto nyonso mandefu na mandefu okoyeba te nani motefu bakosilisa yo kokila na misokyo
mbaketumba na présence na ngai bakoloba lie bakoteke ngai mpo bakakola wapiseli
yosusola a pas de
sérieux.
Nani yo kondima okokanda te oyo okosala bakoteke yo lokola motete ya bisie
mbaketumba na présence na ngai bakoloba lie bakoteke ngai mpo bakakola wapi sérieux.
C'était « Où est le sérieux ?» de Franco Luambo Macchiadi. Nous rappelons que le 12 octobre prochain, ça fera 37 ans depuis que Franco Luambo Macchiadi nous a quittés à Bruxelles. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. L'ACM23 et le gouvernement congolais viennent de signer en Suisse un nouveau dispositif de suivi du cessez-le-feu. Un mécanisme attendu depuis plusieurs semaines qui intègre désormais les deux parties au conflit pour vérifier des violations sur le terrain. Un outil qui s'inscrit dans la continuité de l'accord signé à Doha le 14 octobre 2025, puis des termes de référence adoptés le 2 février 2026. C'est depuis lundi 13 avril qu'ont repris à Genève, en Suisse, les négociations entre le gouvernement congolais et l'AS1-23. Il s'agit du 9e round des discussions entre les deux parties après plusieurs semaines d'arrêt. C'est dans le cadre du processus de Doha. La reprise des discussions intervient dans un contexte marqué par la poursuite des combats dans certaines zones du nord et du sud Kivu. Les États-Unis prennent part aux discussions en tant que facilitateurs, tandis que la MONUSCO participe à cette nouvelle phase en qualité d'observateur. Christophe Origo, vous êtes journaliste et directeur du site Afrique Arabia, spécialisé sur la RDC. Vous avez souhaité nous parler des attentes de ce 9e round des négociations en Suisse entre le gouvernement congolais et l'ACM23, alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain. On vous écoute.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'attentes hein, dès qu'il y a une reprise des négociations. Beaucoup d'attentes parce que, vous l'avez rappelé, hein, rien n'a changé sur le terrain. Les combats n'ont jamais cessé, les affrontements continuent, que ce soit au nord ou au sud Kivu. La guerre s'est déplacée petit à petit dans le ciel avec l'utilisation des drones. Et on a l'impression voilà, qu'on est dans une impasse. Et surtout que les deux premiers protocoles qui avaient été signés à Doha entre la FCN 23 et puis le gouvernement, qui concernaient donc le cessez-le-feu, ce fameux mécanisme de surveillance, et puis la libération des prisonniers, ces deux protocoles n'ont jamais été ni respectés, ni mis en œuvre. Donc c'est vrai qu'avec ce 9e round, on avait un petit peu l'impression que ces négociations repartaient un petit peu d'une feuille blanche. Alors, la seule avancée au moment où on parle, et vous l'avez rappelé, c'est la signature quand même d'un accord d'étape qui a été signé entre l'AFC et le gouvernement, qui concerne le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, qui n'a jamais fonctionné. Donc un mécanisme qui a été élargi, et c'est ça la nouveauté des négociations qui ont eu lieu près de Montreux en Suisse, un mécanisme élargi en fait à l'AFC M23. Ça veut dire que les rebelles, maintenant, vont figurer à part égale avec le gouvernement dans ce mécanisme qui est piloté par la CIRGL en collaboration avec la MONUSCO. Il y aura donc des officiers de la FCM 23 aux côtés d'officiers des FRDC. Donc c'est assez inédit, je dirais, puisque on sait que ce mécanisme en fait concerne essentiellement les États. Et là, c'est la première fois que la FCM 23 est reconnue au même titre qu'une entité étatique.
Justement, Christophe Rigaud, comme vous l'avez dit, hein, la nouveauté par rapport à ces négociations, c'est ces dispositifs de suivi du cessez-le-feu. Mais il y a beaucoup de questions sur notamment comment ces dispositifs vont fonctionner, voir, comme vous l'avez dit, hein, voir les délégués des deux parties collaborer dans un même mécanisme, ça paraît utopique. Comment ça peut se passer, à votre avis?
Écoutez, le problème, c'est que voilà, cet accord a été signé comme les autres accords, mais on n'en connaît pas exactement les précisions, ni même le calendrier. Mais effectivement, cette application va être très très complexe sur le terrain. On peut peut-être compter sur la MONUSCO pour jouer les médiateurs, notamment sur le terrain. Mais ça va être effectivement très très compliqué, parce qu'en fait c'est quand même une petite victoire pour les rebelles d'être reconnus, je dirais, au même titre que la RDC dans ce mécanisme. Reste à savoir, voilà, si le fait de l'impliquer dans le processus va davantage garantir le respect du cessez-le-feu. Ça, c'est vrai que c'est la grande question, parce que voilà, il n'y a pas de date et on ne sait pas encore exactement comment est-ce que ça va fonctionner. Mais ça veut dire que à l'heure où on parle, en fait, les négociations n'ont pas vraiment fait avancer les choses, parce que ce mécanisme, il existe, mais il n'a jamais vraiment fonctionné. Donc on verra bien comment est-ce que cela peut marcher. Mais sur le terrain, on voit bien que les deux parties continuent d'être dans un rapport de force. Les deux présidents congolais et rwandais, dans leur dernière déclaration, restent sur une ligne, je dirais, de rapports de force et d'affrontement. Félix Tshisekedi, après la victoire des Léopards pour la qualification de la Coupe du Monde, a déclaré promettre reconquérir, en fait, les territoires occupés par les rebelles. Et on a vu que les attaques de drones continuaient. Et puis Paul Kagame, lui, dans une interview à Jeune Afrique, a dit clairement qu'il ne souhaitait pas retirer ses mesures défensives, c'est-à-dire retirer ses troupes du Congo. Donc, pour le moment, j'ai l'impression que malgré ce qui s'est passé en Suisse, on est toujours dans l'impasse.
Merci, Donald Moussema. Vous êtes directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant des Bukavu Sud-Kivu. Ce sont des négociations sur les 6 des 8 protocoles contenus dans l'accord cadre entre les deux parties. Il s'agit donc des questions sensibles, comme celles ayant notamment trait à l'identité, à la citoyenneté et aussi à la restauration de l'autorité de l'État, et des questions qui nécessitent des concessions des parts et d'autres. Et pensez-vous que les deux parties soient disposées à se faire mutuellement des concessions?
Bon, tout d'abord, je suis un peu sidéré au stade actuel de remarquer que le processus de négociation qui a été entamé depuis très longtemps maintenant, ça ne fait que perdurer, ça perdure. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous sommes au 9e round. Ça veut dire que ça continue, il n'y a pas de solution jusque-là. Ça veut dire concrètement qu'il y a un manque de volonté politique du deux côtés qui fait qu'aujourd'hui, les négociations se poursuivent et puis n'aboutissent presque à rien du tout. Et comme conséquence, ce sont les populations civiles essentiellement du nord et du sud qui continuent toujours d'en pâtir. Et puis voilà, ce sont des Congolais. Et nous sommes encore une fois de plus de cœur avec eux. Je crois que généralement, dans un processus de négociation, il faut faire le boucher double. Il faut aussi faire la paix. Faire la paix, c'est d'abord dans le cœur. On ne peut pas tout gagner dans un processus de négociation. On ne peut pas non plus tout perdre dans un processus de négociation. Ce qui veut dire que il faudrait de l'un ou de l'autre côté, notamment du côté, bon, on venait de citer tout de suite là, le président Félix Tshisekedi qui dit qu'il va reconquérir. Il le dit avec beaucoup de véhémence, un peu comme pour dire qu'il déchiait l'autre partie. Ce genre de communication ne peut pas amener la paix, Guimaté. Et l'autre aussi qui dit, bon, si c'est le cas, nous allons aussi nous défendre. Là, je parle du président rwandais Paul Kagame. Mais nous croyons qu'il y a lieu de faire des compromis, que chacun se dise pour raison de paix, que, bon, je ne peux pas tout gagner, je ne peux pas tout perdre, et puis que la vie reprenne. Parce que la guerre aboutit toujours à la paix, mais avec les négociations. Donc, personnellement, je suis un peu sceptique. Et je ne vois pas vraiment tout de suite là qu'on peut arriver à... Enfin, si c'est le vœu comme on le veut bien, sans cette volonté réelle politique, quoi. Parce que je vois qu'il y a toujours ce jeu de cache-cache, la communication tronquée. On dit une chose, on signe un petit accord, mais on ne respecte pas quand on rentre. Ce sont les hostilités qui continuent, et voilà, et voilà. Donc, c'est plus à leur niveau qu'il faut travailler. Mais au même moment aussi, la MONUSCO, qui est dans son rôle toujours d'observateur, parce que la MONUSCO, ce sont les Nations Unies. Il y a lieu d'exercer quand même une petite pression sur les deux parties pour sauver les vies humaines et essayer un peu vraiment de limiter toutes les cases qu'il y a, tous les dégâts qu'il y a, voilà.
Merci, Madame Nathalie Kambala-Loussé, membre du cadre de concertation de la société civile du Kassai Central. Vous êtes directrice pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMEDI en sigle. Madame Nathalie Kambala, qu'attendez-vous de ces pourparlers entre le gouvernement congolais et la FCM23 en Suisse?
Merci beaucoup, Guy Maté. Moi, je pense que d'abord que cette initiative traduit la volonté de privilégier une approche politique après des limites observées dans les réponses des militaires. C'est comme ça peut-être que le pays a pensé aller vers les antagonistes pour chercher la paix à travers cette négociation. Mais j'avais quand même quelques risques majeurs par rapport à ces négociations parce que je me dis aujourd'hui, c'est très bien de faire ça, mais est-ce qu'il y aura respect des engagements? Est-ce qu'il y aura cessé les filles? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a assisté à des genres de négociations. Deuxièmement, j'étais en train de me dire, avec la multiplicité de groupes d'armées, mais qui n'ont pas participé à la signature, est-ce qu'on pense qu'on est en train de résoudre le problème ou bien on en cherche encore d'autres? Autre chose, c'est la manipulation politique ou des militaires dans le processus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part la manipulation pour qu'on fasse un semblant des négociations? Ce sont des questions que je parle un peu à haute voix. Et autre chose aussi, lorsqu'il y aura échec, est-ce que ça ne sera pas la perte de crédibilité de nos institutions? Donc ce sont des questions qui arrivent comme ça, mais moi je me dis, c'est que j'attends de ça, qu'on mette en place peut-être un mécanisme de suivi indépendant et crédible qui vienne ni de la RDC ni des AFC, un mécanisme de suivi qui peut aider le suivi de cet accord. Autre chose peut-être, déployer un système de vérification sur terrain. Lorsqu'on sent qu'un côté, on n'a pas respecté les accords, je pense que qu'il y ait des mesures d'accompagnement de cette négociation. Aussi, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inclure les acteurs locaux? Les acteurs locaux jouent un rôle très important. Mais lorsqu'on fait des signatures d'accords loin du pays, vous sentez que les locaux sont mis à l'écart et se sentent un peu négligés. Et aussi, si on pouvait mettre en œuvre les DDR, le désarmement, la démobilisation, la réintégration de toutes les armées, tous ces recrutements de jeunes dans l'armée, je pense que cet accord peut avoir du sens. Et adopter des mesures aussi de sanctions ciblées. Lorsqu'on sent qu'une partie n'a pas respecté, qu'il y ait des sanctions. Parce que la RDC, c'est parmi les pays qui vous écrivent de beaux textes, qui réfléchissent, qui a des gens qui ont des bagages intellectuels. Mais à un certain moment, je pense que qu'on ne laisse pas les lettres mortes, qu'on passe à la vitesse supérieure, aux étapes qui peuvent prouver sur terrain la réalisation de toutes ces négociations et accords.
Merci. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. C'est mercredi 22 avril et la date anniversaire de Blaise Boula, ce célèbre chanteur et auteur, compositeur et membre fondateur de l'orchestre Wenge Musica. À l'occasion donc de cet anniversaire, nous allons écouter un de ses classiques intitulé Chouchou de Londres, sorti dans l'album Kalai Bungi en 1993 dans l'orchestre Wenge Musica. On écoute donc Chouchou de Londres de Blaise Boula et on se retrouve juste après.
Oh, Jésus m'a fait ce jour de l'ombre. Yo ne peux plus comme moi, ma vie tout tout.
Pour Osanaga et Sika Yokenda, pour Kiseki. Namakambo mingi na motema.
Maman X, je faisais tout pour faire coïncider mes désirs à tes besoins. Dommage que mon cœur chez nous est éditeur. N'est pas facile de se faire, sans que ça t'aime.
Don't give me back.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la toute la semaine en RDC. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de l'exposé de la première ministre Judith Suminwa le mercredi 15 avril à New York, aux États-Unis, sur le rôle stratégique de la RDC en ce qui concerne l'eau. Nous avons également analysé les attentes de ce 9e round des négociations en Suisse entre le gouvernement congolais et la FCM23, alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain. Participe à cette émission, Donna Moussema est directeur général de la radio communautaire Iriba FM, mettant des Bukavu sur Kivu. Madame Nathalie Kambala Lousse, elle est membre du cadre de concertation de la société civile du Kassai Central. Elle est directrice pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMEDI en sigle. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Rigaud, il est journaliste et directeur du site Afrique Arabia spécialisé sur la RDC. L'insécurité dans la ville de Kinshasa, le siège des institutions de la République démocratique du Congo, devient de plus en plus inquiétante. Enlèvements, arrestations arbitraires, tueries, vols à main armée et braquages, ça et là. Le phénomène Kuluna n'est pas en reste. Le dernier cas, c'est celui de l'assassinat d'Amissi Issa Vali, opérateur sportif résident en Afrique du Sud. Le corps de la victime a été découvert dans la nuit du 9 au 10 avril 2026 dans un immeuble résidentiel du centre-ville de Kinshasa. Les faits se sont déroulés à l'immeuble La Renaissance, situé dans la commune de la Gombe. Le ministre de la Justice, Guillaume Geffa, a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite de cet assassinat. Selon un communiqué ministériel, le parquet s'est saisi du dossier pour identifier les auteurs et complices de ces crimes. Des instructions ont été données pour mener les investigations avec rigueur afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ces drames. Le gouvernement a réaffirmé sa détermination à lutter contre la criminalité et à garantir la sécurité des citoyens. Donna Moussema, vous avez souhaité nous parler justement de l'insécurité à Kinshasa, les causes et les pistes de solutions. On vous écoute.
Il faut d'abord retenir que le mot insécurité globalement, il est complexe. Hein. On peut parler de plusieurs sortes d'insécurité physique, je ne sais pas, psychologique, des insécurités économiques et tout ainsi de suite. Moi, je pense que l'insécurité à Kinshasa est causée par la mauvaise gouvernance. Parce qu'un gouvernement a d'abord comme première mission celle de garantir la paix et la sécurité de toutes les personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Alors, depuis un temps, on remarque que, il y a des bandits par-ci par-là, il y a des braquages, il y a des vols, il y a des viols, il y a tout. Donc on s'est dit, est-ce qu'on est, on est où là, comme on dit au fait? On est vraiment presque un peu comme dans une jungle. Je crois que c'est ça la première cause. Donc c'est une question de gouvernance. Et vous avez vu que le ministre de l'Intérieur a été même interpellé par les députés qui ont fait une motion de défiance. Des défiances pour dire, trop c'est trop, est-ce qu'on va vraiment continuer à vivre comme ça? On ne peut pas se promener la nuit, même quand vous allez par exemple à une fête nocturne, vous êtes obligé de passer la nuit dans la salle de fête, parce que vous rentrez chez vous à la maison à 2h du matin, peut-être les routes sont barricadées, sont fermées, vous n'avez pas accès, et une fois si vous quittez le véhicule, vous êtes là vraiment dans la gueule de tous ces bandits là-bas. Donc je crois qu'essentiellement, c'est d'abord une raison de gouvernance. La deuxième raison, ce serait la conséquence même de cette gouvernance. Il y a le chômage des jeunes, il n'y a pas de politique d'emploi, beaucoup de gens sont abandonnés à leur triste sort, il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont désœuvrés, il y a l'insalubrité, il y a tout, c'est invivable. Il n'y a pas même de politique pour essayer un peu d'éradiquer cette insécurité là-bas. Donc, C'est cela globalement pour ne pas perdre beaucoup de temps. C'est une question de gouvernance. Il faut vraiment s'y mettre après le corps. Et sinon, dans les mois ou les années qui viennent, Kinshasa risque d'être vraiment invivable. Et surtout qu'il y a aussi l'exode rural, je me dis. Les gens viennent, c'est incontrôlé. On ne sait pas maîtriser le boom, l'explosion démographique. Les gens qui viennent, les quartiers ne sont pas éclairés, le délestage. Il y a tout ça. Il y a les embouteillages aussi, tous ces éléments, les noirs, l'obscurité, ça cause l'insécurité à Kinshasa. Et à part ça, il y a aussi l'insécurité maintenant psychologique. L'insécurité psychologique qui est causée par la peur. Même quand on est chez soi, on sait que bon voilà, un méchant peut venir avec un couteau, il peut forcer la porte. Il n'y a pas la police qui va vous assister, vous pouvez mourir comme ça, les enquêtes, ça patine. Et bon, vous voyez que le gouvernement à ce niveau-là a échoué.
Quelles sont les causes et les solutions que vous avez à proposer?
Les solutions qu'on peut proposer, c'est une question de gouvernance. Il faut d'abord qu'on éclaire toute la ville de Kinshasa. Des solutions tout à fait simples, mais aussi qu'on essaie un peu de rendre les routes praticables, donc qu'on puisse avoir accès à toutes les avenues. Qu'on mette aussi les éléments de police professionnels, encadrés. Donc je crois que c'est ça globalement, si on réussit déjà à ce niveau là-bas, qu'on arrête l'impunité aussi, parce qu'il y a l'impunité, on peut attraper les Koulouna, les bandits, et demain on les voit encore, ils reviennent avec beaucoup plus de virulence, n'ont pas été sanctionnés. Il y a aussi des fois, on apprend qu'il y a les officiers de la police qui collaborent avec même ces bandes des Koulouna, et tout ça... C'est un problème du gouvernement. Donc vraiment que le gouvernement, avec les députés, prenne cette question au sérieux et qu'il y ait la punition et qu'il y ait des mesures contraignantes pour éradiquer l'insécurité à Kinshasa.
Merci beaucoup, Madame Nathalie Kambala-Loussé. C'est quasiment chaque semaine que le gouvernement annonce des mesures renforcées pour combattre cette insécurité, mais la situation ne change toujours pas. Et pourquoi, à votre avis, la situation ne change toujours pas? Et s'il faut faire les parallélismes avec la ville de Kananga, que diriez-vous, Madame Nathalie Kambala-Loussé?
Kinshasa, quand même, c'est une grande agglomération qui fait la fierté de notre pays. Imaginez-vous, nous vivons déjà la guerre à l'Est et à la capitale où il y a toutes les grandes institutions, il y a l'insécurité, la criminalité. C'est quand même des choses qui font peur et qui ne nous mettent pas à l'aise. Alors, moi, je me dis qu'aujourd'hui, s'il faudra qu'il y ait la sécurité par rapport à notre province, il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État doit être de mise à Kinshasa, où c'est la capitale, c'est le miroir de la RDC. Il faut que les citoyens se sentent en sécurité. Imaginez-vous déjà le cas qui venait de se passer dernièrement. Alors les gens même se disent, est-ce qu'il faut commencer même à aller dans les hôtels, rester dans les hôtels, parce qu'on ne sait pas qui est autour de nous. Si déjà les gens qui vivent avec nous traversent des choses comme ça, en pleine capitale, donc il y a à quoi se poser trop de questions et renforcer aussi la légitimité des institutions dans notre pays. Moi, je pense que c'est vrai, à Kinshasa, il y a cette insécurité grandissante. Ici aussi, au Kasaï central, c'est vrai, on ne vit pas trop d'insécurité, peut-être d'enlèvement d'enfants, un peu de criminalité. Mais c'est plus des conflits, hein, des conflits qu'il y a, conflits coutumiers, conflits régnants, conflits champêtres, des limites et tout et tout. Et tout ça, ça aboutit à des conséquences désastreuses comme l'insécurité, les violences et tout et tout. Et c'est pas intéressant. Alors, si ça dépendait de moi, comme la question que vous avez posée à notre ami, qu'est-ce qu'il faudra faire pour le moment? Peut-être se renforcer de services de sécurité. On sent qu'il y a l'insuffisance de moyens logistiques, peut-être des moyens humains. J'ai vu ici au Kasaï central, quand même, il y a des gens qui se sont portés pour volonté parce qu'il y a un centre où il y a plus de 6000 personnes venant de différents territoires et qui étaient en formation pour être policiers. On sent que déjà qu'on aura quand même une main-d'œuvre grandissante pour la sécurité de la population. La vice-ministre est arrivée il y a quelques jours ici au Kasaï central pour aller contrôler dans sa mission d'itinérance les frontières. On a aussi des problèmes sérieux dans des frontières de pays. Aujourd'hui, on est en train de vouloir ouvrir les frontières, mais on oublie qu'à la longue, peut-être, ça peut nous créer des problèmes. Aujourd'hui, il y a nos frères de l'Angola qu'on est en train de rapatrier, chasser de l'Angola comme si nous ne vivons pas côte à côte. Il y a aussi des frontières, des limites de provinces comme ça, où il y a des sérieux problèmes. Merci encore, elle est venue, elle va se rendre compte de ce qui se passe ici au Kassai central. Mais moi, je pense qu'il y a aussi la faible coordination entre les services de sécurité et de la justice. La sécurité peut prendre des initiatives d'arrêter ces criminels. Après, ce sont des audiences publiques, des audiences foraines, des audiences pour un peu éduquer la population. Et après, ce sont les bourreaux ou les prisonniers qui sont relâchés. Et moi, je pense que c'est un sérieux problème qu'on devra régulariser parce que nous, on est vraiment très, très, très experts dans la violence basée sur le genre, mais on a des sérieux problèmes dans la libération du bourreau. Vous savez toutes les preuves que ce monsieur a violé cet enfant, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec notre justice ou non, on n'a pas de preuves, non, la victime ne vous est pas présentée, non, ceci, cela, et on libère les gens comme ça, ça pose problème. Aussi, le déficit de confiance entre la population et les forces de l'ordre. À un certain moment, nous, ailleurs, quand on voit la police, on se sent en sécurité. On voit les militaires, on se sent en sécurité. Mais chez nous, à un certain moment, on voit la tenue, on a peur qu'on ait en insécurité. Moi, je pense qu'on doit renforcer la capacité des gens, renforcer le moyen de locomotion, le moyen pour que la présence de cette catégorie de personnes, je pense qu'on se sent en sécurité, qui la calme dans toutes nos zones sur l'étendue de la RDC. Merci.
Merci beaucoup, Madame Nathalie Kambala. Christophe Origo, de la France, c'est d'où vous intervenez. Quel regard avez-vous de cette insécurité qui sévit sur la ville de Kinshasa depuis un certain moment?
Alors, c'est vrai que c'est un problème et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui, c'est vrai, on l'a vu, a tendance à s'aggraver récemment. On dépasse maintenant, c'est vrai, les simples bagarres de rue de Koulouna, vous l'avez dit, des enlèvements, des braquages, des assassinats. Il y a quand même des causes, à la base, moi, que je considère comme des causes socio-économiques. Hein. Il y a quand même un chômage assez massif chez les jeunes, une pauvreté, une marginalisation, une absence aussi de perspective hein, pour cette jeunesse. Le président avait promis du travail pour les jeunes, mais ça reste insuffisant. Et puis, on l'a dit aussi, la surpopulation quand même de Kinshasa, 19 millions d'habitants, peut-être plus, c'est le terreau idéal pour la délinquance. Et il y a ce problème quand même de gouvernance qui, sur la police, pose des soucis de formation, aussi de paiement, de salaire, tout simplement des agents de police. Hein. C'est une police qui est paupérisée, qui est aussi corrompue. Il y a de la complicité, de la collusion avec les délinquants, notamment au niveau de la circulation des armes à feu. Donc c'est vrai que la solution, bah, c'est voilà amélioration de la gouvernance, parce que voilà une lutte contre la corruption dans l'armée et la police, c'est une priorité. Et puis peut-être aussi de vrais programmes de réinsertion et de formation professionnelle pour ces jeunes, notamment aussi pour les Koulouna qui souvent passent par la case prison et qui, quand ils sortent, voilà, retournent le plus souvent dans la délinquance.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Alena de Bozi Boziana, et on se retrouve juste après.
Thank you.
C'était Alena, Alena, cette belle chanson du grand-père Bozi Boziana qu'il avait composée quand il faisait encore partie de l'orchestre Shockstar. Je rappelle que nous avons dans cette émission Dona Moussema, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant des Bukavu au sud Kivu. Madame Nathalie Kambala Loussé, membre du cadre des concertations de la société civile du Kasaï Central, elle est directrice pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main, pour le développement intégral, FMEDI en sigle, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Rigaud, il est journaliste et directeur du site Africa Arabia spécialisé sur la RDC. Le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest du Centre, Gilles Faninou, a alerté sur l'aggravation de la crise de la protection de l'enfance et l'augmentation des menaces visant les travailleurs humanitaires dans l'Est du pays. Dans un communiqué rendu public à l'issue de sa mission au mois de mars, précisément le 25, il appelle à une mobilisation renforcée face à une situation jugée de plus en plus préoccupante. Selon l'UNICEF, plus de 7 millions de personnes sont déplacées dans l'est de la RDC, dont 2,5 millions d'enfants. La situation sécuritaire affecte aussi lourdement les acteurs humanitaires. En 2025, plus de 626 incidents visant les personnels humanitaires ont été enregistrés à l'échelle nationale selon les données d'OCHA. Pour Gilles Faninou, ce climat des menaces compromet directement l'accès à l'aide vitale. Les attaques contre les travailleurs humanitaires ne visent pas seulement les personnels d'aide, elles visent les enfants et les familles qui dépendent d'une aide vitale. Chaque fois qu'un accès est bloqué, ce sont la nourriture, l'eau et les médicaments qui n'atteignent pas ceux qui en ont le plus besoin, a-t-il conclu. Madame Nathalie Kambala Loussé, vous avez souhaité justement nous parler de la situation humanitaire en RDC. On vous écoute.
Je voulais d'abord présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont reçu les leurs de cette guerre qui nous a été imposée à l'est de notre pays, et aussi compatir avec toutes les familles qui traversent des moments difficiles, aussi avec des conséquences désastreuses issues de cette guerre. Je pense que la situation humanitaire en RDC, surtout dans les zones occupées, devient une préoccupation majeure. C'est vrai que maintenant le monde entier vit des conflits armés, des conflits de toutes sortes. Mais ce qui est vrai, que la situation humanitaire en RDC reste l'une des plus complexes quand même dans le monde, qui est caractérisée des crises prolongées et multidimensionnelles. On peut avoir même un problème auquel nous sommes en train de nous bagarrer pour avoir une solution idoine, mais malheureusement, chez nous, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu par rapport à la situation qui se passe à l'est du pays. Au-delà de la situation que vous venez de montrer tout à l'heure avec le rapport de l'UNICEF, et je voulais aussi quand même compatir avec le staff UNICEF qui a perdu sa vie vraiment sur terrain en mission de service,
il y a d'abord des non-respects des conventions. Il y a beaucoup de conventions sur la situation humanitaire, mais qui n'est pas respectée. Il y a, par exemple, l'accès est restreint de l'appui humanitaire. Imaginez-vous la zone avec le chiffre que vous venez d'avancer, mais le couloir humanitaire, on n'a pas l'accès à tous les partenaires. C'est quelques partenaires qui ont ce couloir-là pour arriver avec l'appui humanitaire. Au-delà de cela, vous venez de parler des déplacements massifs de la population. Il y a les expositions accrues des violences sexuelles liées au conflit. Mais il faut suivre des témoignages du matin. Je vous dis, vous n'aurez même pas d'appétit pour manger. Comment on est en train de violenter la population? Les enfants qui sont pilés dans les mortiers. Mais ça, c'est gravissime dans un pays où on parle de droits humains. Il y a aussi la recrudescence des maladies chroniques. Aujourd'hui, il y a la malnutrition. Il y a les sous-financements des partenaires. D'ailleurs, c'est au niveau mondial. Dernièrement, on a reçu une délégation de l'Union européenne ici qui nous dit que d'ailleurs, notre zone n'est même pas une zone prioritaire. Tout est fixé à l'est. Mais avec les guerres qui sont dans le monde entier, déjà les financements, dans 2 ans, on ne voit même pas c'est quel pays ou organisation qui va aider. Il y a aussi la dépendance qui est élevée de financements internationaux. C'est vrai, au niveau national, ici, on a déjà Fonaref qui est là pour les réparations, l'identification des victimes. Mais je ne pense pas que Fonaref a la facilité d'atteindre ces zones qui sont occupées par les groupes armés. Il y a aussi la difficulté d'accès aux zones à haut risque, que ce soit même les acteurs locaux humanitaires qui sont là-bas. Ils ne savent pas accéder parce que ce sont des places qui sont occupées par le groupe armé. Aujourd'hui, il y a des bombes qui tombent dans des camps des déplacés. C'est inconcevable ça. Il y a quand même des conventions où on ne peut pas attaquer les camps des déplacés, où on ne peut pas attaquer la population. Voilà pourquoi, en tant qu'humanitaire, malgré que je suis de la société civile, c'est une situation qui nous a vraiment choqués. Et on se dit comment aujourd'hui on va quitter, parce que la malnutrition devient accrue. La dégradation durable aussi de la capitale humaine. Les gens ne savent pas utiliser même leur compte en banque. Moi, personnellement, j'étais à Goma, là, j'étais en train de faire le master en genre. Aujourd'hui, j'ai terminé au moins en ligne, mais les autres qui avaient les ambitions de faire aussi le master en genre qui n'existe pas dans d'autres universités. Vous voyez comment on restreint déjà l'accès de droit à la population qui n'est pas de l'Est où il y a la guerre. Même les autres provinces sont affectées directement. Voilà pourquoi ce sont des questions qui nous choquent quand même.
Merci.
Et nous lançons un appel pathétique, un appel auprès des autorités, auprès de la communauté internationale, auprès des humanitaires, de se mobiliser comme un seul homme, de sauver la vie des personnes qui crient dans ces parties de l'Est de notre pays.
Merci, Madame Nathalie Kambala-Loussé. Christophe Rigaud, on parle de plus de 7 millions de personnes déplacées, sans évoquer aussi toutes ces personnes qui sont allées se réfugier dans des pays limitrophes. Il y a eu des annonces qui ont été faites au niveau national comme au niveau international dans le cadre, n'est-ce pas, d'assister ces populations en détresse aujourd'hui sur le territoire congolais, mais on ne sent rien sur le terrain. Pourquoi cette question semble ne pas beaucoup préoccuper les puissances du monde, Christophe Rigaud, même les médias internationaux?
C'est vrai que moi j'ai l'impression en fait que le fait que l'accès humanitaire soit restreint, de par le conflit évidemment à l'Est, de par la fermeture de l'aéroport de Goma, à Bukavu aussi, voilà, c'est un aéroport qui est contrôlé par la rébellion, donc ça c'est un vrai problème. Il y a aussi une problématique de sous-financement qui maintenant commence à devenir chronique, qui a été accentuée notamment par les coupes budgétaires aux États-Unis de l'USAID, et tout ça, ça donne effectivement plus de difficultés pour les humanitaires d'accéder au terrain. Les incidents de sécurité contre le personnel humanitaire ont augmenté. Il y a les attaques des groupes armés, parce qu'il n'y a pas évidemment que la FCM 23, mais il y a un petit peu plus au nord, vous avez les ADF et vous avez après une centaine d'autres groupes armés. Donc c'est évidemment le problème Le plus important, c'est un problème de conflit et un problème de financement. Alors c'est vrai qu'il y a eu la fameuse conférence sur les Grands Lacs à Paris à l'automne dernier, où on avait annoncé tambour battant la réouverture de l'aéroport de Goma, mais on a vu que faute de négociations et de préparation avec ceux qui contrôlaient l'aéroport, c'est-à-dire les rebelles, eh bien pour le moment cet aéroport est toujours fermé. Mais c'est vrai que depuis l'Europe, les chiffres de la crise humanitaire en RDC continue de donner le tournis, parce que vous avez 17 millions de déplacés, mais si on regarde les chiffres des Nations Unies, c'est 15 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire. C'est aussi une crise alimentaire qui touche aussi 26 millions de personnes, parce que ça aussi c'est dû aux différents conflits qui empêchent l'accès aux champs, qui détruisent les récoltes et qui font aussi exploser les prix. Il y a aussi une crise sanitaire avec le choléra, la rougeole. Donc vous êtes dans une crise multifactorielle en termes humanitaires, et c'est vrai que les réponses humanitaires sont un petit peu plus faibles de la part due au conflit et due aussi à un manque de financement. À chaque fois que les Nations Unies font des appels de fonds, elles ne sont jamais couvertes à 100%.
Merci Donald Moussema, nous allons finir cette émission avec vous. C'est quoi votre opinion par rapport à cette situation humanitaire en RDC?
Je voudrais tout d'abord présenter toute ma compassion à toutes les populations de l'Est du pays, notamment au Sud Kivu et au Nord Kivu. Je dois dire que je suis un ressortissant du Sud Kivu, je connais bien les deux provinces, je connais le calvaire qu'elles traversent. Ça me fait très mal qu'on voit que dans un conflit, on ne respectait pas la Convention de Genève qui appelle à la protection des civils, essentiellement les vulnérables, les femmes, les enfants, les handicapés, et ce sont eux essentiellement qui en payent le gros, qui en payent le prix. Donc je voudrais appeler les uns et les autres à respecter la Convention de Genève, parce que quand il y a des bombardements, ce ne sont pas essentiellement ce qu'on appelle les rebelles qui tirent. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'action du gouvernement qui peut envoyer les bombes et puis ça détruit. Donc il ne faut pas accuser les uns les autres pour faire la paix. Nous devons parler clairement, qu'on établisse aussi les responsabilités. Donc j'appelle personnellement qu'on puisse respecter la Convention de Genève, parce que les civils ne sont pas partie prenante à ce conflit. Ils sont plutôt victimes, il faut les protéger. Mon point de vue
la situation de toutes ces femmes, tous ces enfants vulnérables.
Ça fait très mal, ils sont des victimes. Il y a des déplacés, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau comme on venait d'en parler ici. Il y a les handicapés qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Si vous envoyez par exemple quelque chose aujourd'hui dans le Nord Kivu, il y a les problèmes des banques qui ne fonctionnent pas. Mais ce n'est pas la population qui devrait subir. C'est pourquoi justement ce message est là à l'endroit des acteurs. Tous les acteurs, même aussi la communauté internationale, qu'elles fassent son mieux pour imposer la paix, parce que nous connaissons ceux qui bloquent quand même. Nous connaissons ceux qui bloquent, mais il faut qu'il y ait l'intervention sincère de la communauté internationale, de l'ONU, pour qu'on mette fin à ce conflit qui n'a que trop duré, qui est en train de tuer nos confrères congolais à travers le nord et le sud, qui vous même dans l'Ituri. Voilà, et c'est ainsi que par un dialogue de toutes les parties, on peut retrouver la paix. Donc voilà, je suis vraiment de cœur et ça me fait très mal d'en parler. Bon voilà, mais espérons qu'avec Dieu, il y aura la paix. Et ceux qui font la paix, on les appelle dans la Bible les enfants de Dieu. Et nous savons que le peuple congolais, c'est un peuple enfant de Dieu. Il est résilient, il est pacifique, il a beaucoup souffert. Trop c'est trop. Voilà, merci. C'est le moment de faire la paix.
Merci, trop c'est trop, comme vous le dites. C'est avec ces mots que nous allons, n'est-ce pas, clôturer cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Nathalie Kamala-Loussé, Monsieur Christophe Rigaud, Monsieur Dona Moussema. Merci aussi à Paul Badianyama qui était à la technique, avec la participation de Dieudonné Nyangassa, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Via cette composition de Liking Aredo dans l'orchestre Zaiko Langalanga, et on se retrouve le samedi prochain.
Tiani kamboya koni ni mama. Tiani kamboya kosoni mama. Nakenda kana tika kayo na ndako. Na bana na senga kayo omatera. Sutu na senga kamingi fidelite. Sutu na senga kamingi fidelite. Otali na oseki ometika mata moliko mabazo magai maso. Patika na senga yo omo. Gana ke iye ye. Namo pepo na lota kato kwa mabe. Napayasha na lota kato kwa mabe. Kombe kombe ili kakala lopako inga kimana ya soso. Sola nyoso ya pepe na tombo na la muki. Toboko na litama. Moto kitela suki. Moto kila masaka. Motema olikolo na kombaza baza yo. Nikango ya koya soni pia osari. Songa, 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 hey. Songa, 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 papa. Pamangana pepie, umbangana pakosa. Nobanganga ya kisi batale la karikamo. Etikala ele pomone nena motema. Mula na kangata enoki. Bato papazani, peti pesini. Peti pesini, mama, hey.
Ona no ya suka ya koyo ke Okia ko e Obila, obila, emerita Ilo
Tamo pepo na lota kato to amabe. Napaya shana lota kato kwa mabe. Kombe kombe ili kakana lopako. Ika gimana ya soso. Sala nyoso ya pepe na tongo na ramuki. Toboko na litama. Moto kitela suki. Moto kila masaka. Motema olikolo na kopasa pasa yo. Nikambo ya koyo soni pia osari. Zonga, 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 hey. Zonga, 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 mama. Mamangana pepie, umbangana bakosa. Nobanganga ya kisi batare la karikambo. Etikala ere pomone nena motema. Mula na kangaka enoki. Bato bapazani, peti pesili. Peti pesili, mama.
Via, via, papa,
via, via,
papa,
via,
via, mama.